Alors, vous savez que nous allons parler d'ampleur narrative. Et si on avait voulu rester dans le sujet qui était celui de la table précédente, on pourrait dire, et on vient de le dire, que pour rester dans l'ironie, on pourrait faire très court et parler très brièvement de l'ampleur narrative. Ça serait une solution élégante pour continuer les débats de tout à l'heure. Nous recevons, et je ne vous les présenterai pas, le programme est assez complet de ce point de vue-là, nous recevons Pierre Sange et Mathias Sénard pour cette dernière table ronde, consacrée, je l'ai déjà dit, à l'ampleur narrative. Dominique l'a très brièvement rappelé ce matin, il est certain qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des gros livres chez les libraires, que c'est peut-être un phénomène récent. Enfin, on a signalé Kadour, Waltenberg, les derniers, Rouault. On pourrait signaler, bien sûr, aussi, il a été très visible, Jonathan Little avec les Bienveillantes. Il y a sans doute autre chose que le volume, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est peut-être pour une forme de roman contemporain, une manière de renouer avec l'histoire, l'anecdote, ce qu'on raconte, les événements, les péripéties, autre chose que ce presque rien qu'on a traqué à un certain moment dans la littérature. Alors, ampleur narrative, on aurait pu dire aussi, même si le choix du narratif est délibéré, on aurait pu dire aussi ampleur romanesque, et qui dit romanesque, évidemment, dit tout de suite création d'un univers. Mais alors, il n'y a pas une manière de créer un univers, et vous êtes tous les deux, je crois, de véritables créateurs d'univers, mais de manière très très différente. Ce que ça souligne en tout cas, c'est qu'il y a une mise en valeur du récit de l'histoire. Alors ça, c'est si on valorise positivement le mot romanesque, mais vous savez aussi que ça n'a pas toujours été le cas et que tout le monde ne fonctionne pas ou n'a pas ce même regard-là. De manière plus négative, le romanesque, c'est aussi ce qui désigne à certains moments ce qui est facile dans le roman, hein, les grosses ficelles et puis un certain nombre de thèmes à succès, l'amour, la guerre, des choses qui impliquent l'être dans ce qu'il a de plus profond dans son existence. Alors, vous avez tous les deux publié, et c'est dans les deux cas, votre dernier roman entre dans la catégorie de l'ampleur, mais on aurait pu vous inviter à une table ronde qui aurait parlé de choses plus minimales, je ne dirais pas minimalistes, mais enfin moins épaisses. Hein. Il suffit de voir les différents livres, je n'ai pas tout amené. Mais vous avez des romans qui sont aussi des romans de moindre ampleur qui ont précédé ces livres-là. Alors, sans doute, évidemment, que le désir ou le fait que vous ayez été amené à publier des volumes plus conséquents, ça s'explique par une volonté de totalisation. Enfin, il y a un certain nombre, dans le roman, dans l'histoire du roman, en France comme à l'étranger, il y a quand même un certain nombre de grands romans qui restent des romans phares, Proust, Joyce, bien sûr, mais alors quel Joyce? Et il faudra peut-être en discuter. Il y a le Joyce d'Ulysse et puis il y a le Joyce de Finnegan's Wake. Ce sont deux gros livres, mais ce ne sont pas du tout les mêmes livres. Mais il y a aussi Tolstoï. On n'est pas du tout dans le même référent, on n'est pas du tout dans le même univers, pour ne pas dire Dumas, si on parle romanesque. Alors, bon, vous êtes réunis ici aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous avez sur l'écriture un regard identique, et ça sera intéressant de voir comment vous vous situez. Disons, pour délimiter de manière bien sûr trop simplificatrice les choses, Pierre Sange, vous êtes plutôt du côté d'un regard vers le texte, vers des textes antérieurs, vers l'écriture passée, vers une mise en forme construite. Mathias Sénard, vous regardez davantage vers le monde, même si vos textes sont très travaillés aussi. Disons que Pierre Sange, et je crois qu'il l'affirme de temps en temps, valorise le commentaire, en vient souvent à signaler ça, tandis que Mathias Sénard souligne de toute façon aussi l'importance de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pratiques qu'on retrouve. Alors, chez Pierre Sange, on a le fragment roman, l'encyclopédie, des questions de ludique, l'archive, le cadastre, le catalogue. Il y a un certain nombre de formes comme ça qui s'imposent, alors que chez Mathias Hénard, on a davantage des questions de lier l'importance du témoignage, de l'histoire récente, l'écriture des sens. Si Pierre Sange, pour reprendre le thème de la table précédente, est très régulièrement du côté de l'ironie verbale, Mathias Hénard est aussi souvent, et c'est très fréquent dans certains de ses livres, du côté de l'ironie du sort, parce que c'est ce qui confronte le plus la société. Alors, des adjectifs qui fonctionnent, mais qu'à moitié. L'adjectif baroque s'applique, on voit ça de temps en temps à l'œuvre de Pierre Sange. C'est un peu différent chez Mathias Hénard. Est-ce qu'on doit parler de romantisme noir? Est-ce qu'on doit parler de gothique? Est-ce qu'on doit parler d'écriture mythique? Il met lui-même en avant tout ce qui est épopée pour en particulier zone. Enfin, ce sont des choses dont on pourra discuter tout à l'heure. En tout cas, deux véritables inventeurs, créateurs d'un monde qui font en outre très attention à la mise en forme de leurs textes. Ce sont tous les deux des grands lecteurs, mais ça ne donne pas une littérature érudite. C'est-à-dire que quand ils écrivent, j'ai eu chaque fois l'impression qu'ils oublient tout ce qu'ils savent pour raconter des histoires. C'est exactement le contraire d'une littérature intellectualisante qui aurait besoin de référents constants. Tout ça est sous-jacent, mais ne nuit en rien aux histoires. Alors, je propose qu'on aborde un certain nombre de thématiques. Je commencerai peut-être justement par celle qui est centrale pour la table ronde. C'est la question de l'ampleur. Je commencerai par Pierre Sange. Il y a un certain nombre de formes qui apparaissent très, très clairement dans votre œuvre. Et je prends un petit extrait de Ruines de Rome. Hein. Il s'agit de votre jardinier de l'Apocalypse, hein, où vous lisez « Pour un jardinier, faire le point revient à établir un catalogue. Énumérer son arsenal, où ses floralies tenant lieu de bestiaires apocalyptiques revient à composer un herbier, relever des noms dans des livres de botanique ou des livres de l'encyclopédie. » Il y a une insistance, on pourrait retrouver exactement la même chose dans d'autres ouvrages où vous faites des listes, il y a un système d'expansion. Pourquoi, après ces romans plus brefs, ce texte vraiment alors beaucoup plus touffu des fragments de Lichtenberg? Pourquoi cette prédilection pour la liste, le catalogue? Et alors, comment est-ce que vous avez cherché à mettre ça en place dans le dernier volume?
Peut-être que le gros volume touffu est un fantasme qu'on a tous plus ou moins, qui traverse parfois de façon ironique, parfois de façon épique, et parfois de façon sérieuse, la littérature ou les littérateurs dans leur façon de travailler, ou même dans la façon de lire, parce qu'on est d'abord des lecteurs avant. Je pense qu'on a tous été fascinés à divers degrés par le gros livre total, le gros livre monde, dans lequel on espère trouver des histoires ou des points de vue ou un univers. Alors parfois on est déçu, parfois on ne l'est pas. C'est ce qui nous attire du côté peut-être de Proust ou de Joyce ou de Pynchon ou de Günter Grass, ou enfin tous ces livres qui physiquement en aspect, dans leur aspect même, nous promettent quelque chose, comme le fantasme du grimoire médiéval ou renaissant dans lequel le microcosme et le macrocosme vont se retrouver. Voilà. Donc c'est peut-être un fantasme de lecteur, et puis après un fantasme d'auteur, on se dit, voilà, si la littérature est un jeu, et si le jeu peut être d'écrire, de faire semblant d'écrire un gros livre dans lequel on va tout faire rentrer, autant le faire, autant le pousser jusqu'au bout. Donc au départ, c'est peut-être ça, peut-être l'idée d'un fantasme assouvi, mais en mettant en scène le fait que c'est ça l'objet, c'est ça la question. C'est la question du gros livre, c'est une des histoires qui sont dans ce livre, c'est l'histoire du gros livre. Est-ce qu'un gros livre peut exister? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il tient debout? Est-ce qu'il ennuie? Est-ce qu'il n'ennuie pas? Est-ce qu'il distrait? Comment il peut distraire? Voilà, c'est ça qui est en œuvre, c'est-à-dire le fait de jouer avec cette idée-là. Et comme le thème principal, le personnage principal de ce livre, c'est Lichtenberg, ou plutôt ses aphorismes, c'est-à-dire au contraire la forme très très brève, voilà, jouer sur ce contraste-là de la brièveté, de l'expansion, et puis pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Et comme, effectivement, je suppose qu'on peut pas, on peut difficilement faire de la narration sans faire du commentaire, parce que la narration est un point de vue, ou alors c'est de l'eau plate, et ça ne vaut peut-être pas grand-chose. À partir du moment où on décrit quelque chose, c'est comme cadrer une image, ou éclairer un buste, ou développer une photographie, c'est opérer des choix techniques sur quelque chose qui nous est donné. Une narration ne peut pas être neutre, elle ne peut être qu'une opinion exprimée. C'est pour ça que le commentaire est une sorte de mise en abîme, ou d'une élévation au carré, mais par jeu, de ce principe-là, du fait qu'à partir du moment où on écrit, il ouvre la porte et il referme à la fenêtre, on exprime un point de vue, on exprime une opinion, donc on commente quelque chose, et le commentaire peut se référer à lui-même. Il peut y avoir un commentaire du commentaire et un commentaire du commentaire du commentaire, comme dans ces emboîtements de textes se commentant les uns les autres, qu'on peut lire dans le Talmud, par exemple.
Qu'est-ce que on peut dire dans l'ampleur, qu'est-ce que les fragments peuvent dire que ne pouvaient pas dire des formes plus ramassées, qui jouaient aussi déjà avec ces formes-là. Ces questions d'emboîtement sont antérieures aussi, les questions d'allusion. Qu'est-ce que outre la compétition ou l'imitation de modèles de volume plus épais, qu'est-ce qu'on peut dire dans le volume qu'on ne peut pas dire dans la brièveté? Parce que souvent on dit, on dit en très peu de choses, on peut, en très peu de pages, on peut dire ce qu'on dit. Mais il y a manifestement quelque chose qui est à l'œuvre aussi dans le travail sur la forme.
Oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire autre chose, mais on fait autre chose en tout cas. On produit... On est obligé de produire une façon d'écrire différente, une façon de mettre en page différente, même une façon de fabriquer matériellement, très concrètement, un livre différent. Et on suppose qu'on produit une lecture différente. Donc, ce n'est pas tellement dans le dire que dans le faire. C'est vrai que, par exemple, Borges, avec un texte qui s'appelle « L'approche d'Almotazim », est très bien démontré par l'exemple qu'on pouvait concentrer un livre de 1000 pages en 7 pages très, très brèves, très denses, mais qui joue en jouant sur l'ellipse, l'allusion, le non-dit, le résumé, l'extrême compacité de quelque chose qui pourrait se développer. Voilà, il montrait bien que l'ampleur peut tenir en quelques pages. Et chez Borges, c'était une façon assez assumée, mais avec brio, de faire avec sa propre paresse, parce que je pense qu'il avait le fantasme du gros livre. Il le dit à quelques endroits, je n'ai pas retrouvé les traces, mais il le dit dans quelques nouvelles et dans quelques entretiens. Il avait, comme tout le monde, à un moment donné, le fantasme du lys, voilà, le fantasme du gros livre, mais était trop paresseux pour le faire. Donc il imagine le livre, il le décrit. Voilà. Donc on ne peut peut-être pas dire quelque chose, mais en tout cas faire et faire avec ces systèmes de notes marginales, de parenthèses, d'ampleur, de chapitres qui se succèdent. Le risque, c'est peut-être d'ennuyer et de perdre, mais c'est aussi ça, peut-être ouvrir des labyrinthes, et puis jouer sur la longueur, sur l'épuisement des listes et l'épuisement du lecteur, je ne sais pas, peut-être les deux à la fois.
Quelle est à ce moment-là la place du lecteur? Parce que vous supposez beaucoup chez votre lecteur déjà qu'il puisse garder une vue d'ensemble. C'est un livre en fait qu'il faut lire en pas trop de temps. Il ne faut pas le laisser traîner. Il faut pouvoir être sensible au jeu d'appel, au rappel, aux réécritures, aux allusions. Est-ce que c'est quelque chose qui a été très construit très très consciemment, ou qui s'est imposé petit à petit? Et est-ce que vous avez pensé à ce lecteur qui était derrière? Est-ce que, en d'autres termes, il existe aujourd'hui, peut-être plus que dans le temps, des lecteurs qui sont prêts à prendre le temps de lire des livres de 400, de 500 pages?
Je suis pas sûr qu'on puisse lire ce livre-là, ou Zone, ou d'autres, avec la vie qu'on mène de façon très rapide, à moins d'être un lecteur vraiment professionnel ou le fantasme de Nabokov, le lecteur idéal, atteint d'une insomnie idéale. Alors, effectivement, il faut peut-être être insomniaque, mais j'espère qu'on... Au contraire, qu'on puisse lire ce livre par fragments, parce qu'il est fragmenté, parce qu'il y a une table des matières, même si cette table des matières joue ironiquement ou humoristiquement sur la forme même de la table des matières, c'est-à-dire que c'est une table des matières un peu trompeuse, mais elle est exacte, parce que les renvois de pages sont exacts. Donc voilà, ça aide, enfin j'espère que ça peut aider un lecteur à lire ce livre sur 4-5 ans, en l'abandonnant et en laissant tomber. Moi, je suis moi-même un lecteur assez lent, donc je peux lire un gros livre sur plusieurs mois entremêlant d'autres lectures entre-temps. Donc, c'est plutôt cette lecture-là éclatée que je privilégie plutôt qu'une lecture dense. Voilà. J'espère que ce n'est pas un livre dense. Il y a des blancs, il y a des découpages. J'interromps beaucoup une narration pour la remplacer par une autre, de peur justement de perdre le lecteur. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire, un petit peu à la façon des Mille et une nuits. Et ces histoires-là s'interrompent. Enfin, je les coupe, je les remplace pour d'autres, soit faire des jeux de couleurs, parce qu'on peut être lassé du bleu quand on a sur plusieurs pages uniquement du bleu, ou alors pour prendre une autre image, ce serait l'image d'un repas pour passer de l'entrée au plat principal ou au dessert, pour un peu varier, sinon ça serait ennuyeux. Quoi. Il peut y avoir de très bons potages, mais à la 17e cuillère, hein, le très bon potage se répète un peu. Quoi.
Merci. Je passe à Mathias Hénard où la forme n'est pas cette même forme d'emboîtement. Et évidemment, tout le monde a vu, il a été très, très visible à Vue Zone, mais dans des textes antérieurs déjà. Je lis simplement pour montrer comment l'ampleur peut s'exercer là dans l'écriture. Et on verra tout de suite que c'est très, très différent de ce que fait Pierre Sang. Je lis un extrait de Remonter le Roanoke. Il s'agit justement de la rivière. Cette longue blessure sur la carte se tressait rectiligne de l'imagination géographique. Le revoilà maintenant à ses pieds et glisse en son milieu vers une source inexistante, une toile d'araignée, de cours d'eau sauvages, de rivières striant les forêts, pour rejoindre au hasard les entrelacs amazoniens. Pas de seuil, pas de partage des eaux, aucune frontière à laquelle se raccrocher et, d'après ce qu'elle a lu, seuls les militaires savent plus ou moins quel bosquet, quelle piste envahie de lianes marque la limite de leur domaine, entre l'Équateur et le Brésil, dans un bassin légèrement creux, sans ville, des milliers de kilomètres d'arbres, de singes et de caïmans. Je pense que déjà dans le rythme, dans la construction de la phrase, on voit que le système qui donne... qui génère l'ampleur est très différent. Comment est-ce que cette question d'ampleur s'est posée pour vous à travers aussi l'écriture ?
Là, l'ampleur, c'est plutôt l'Amazonie.
Oui.
La taille de l'Amazonie plutôt que la taille de mes phrases. J'avoue que je n'ai pas pensé à la question de l'ampleur, de la taille, quoique la taille compte aussi. Mais ce qui s'est produit pour moi, pour Zone, pour aller vite, c'était un projet qui était déjà défini, puisqu'il s'agissait d'un voyage entre Milan et Rome, et que j'avais cette idée un peu folle de que ce voyage soit vrai, hein, c'est-à-dire qu'il rentre complètement dans le livre et qu'à chaque kilomètre corresponde une page. Parce que c'est un projet... un peu presque oulipien, en quelque sorte, mais qui me permettait, moi, de tenir mon voyageur dans mon train, sur ses rails, entre Milan et Rome, d'avoir des bornes, qui sont les villes qu'on va traverser, et de savoir exactement où j'emmenais ce lecteur. Et justement, dans ce train, l'idée, un peu, c'était justement de pouvoir lui raconter des histoires qui soient toutes différentes, justement. Où on mélange... le passé lointain, le présent, des histoires et des personnages réels, d'autres inventés, d'une façon, tout comme le fait un peu Pierre d'ailleurs, dans quelque chose qui a à voir avec les Mille et une nuits, ou avec ces conteurs d'autrefois qui savaient très bien varier la tension, les différents types de récits pour conserver un peu, captiver leur public. Donc, à la fois, Zone, effectivement, c'est 500 et quelques kilomètres, mais c'est aussi quelque chose de, qui n'est pas spécialement ample, puisqu'il n'y a pas une histoire qui dure plus de 3 pages, en fait, dans le récit. Enfin, à part le conte-cadre, qui est justement l'histoire, enfin, comme disent les spécialistes de Mille et Une Nuits, justement, le conte-cadre, qui est l'histoire de cet homme qui est dans ce train, et qui, lui, on va retrouver du début à la fin. Mais sinon, l'ampleur, elle est toute relative, à mon sens.
Oui, enfin, je ne sais pas s'il est tout relatif pour le lecteur, mais je vois d'où ça peut, venir. Je voudrais passer à une seconde problématique qui est présent dans vos deux œuvres et qui tient sans doute à votre vie en dehors de l'écriture aussi. C'est que on voit dans ces textes des grands lecteurs professionnels. Ou pas, il y a énormément de textes cités, il y a des textes auxquels il est fait allusion, il y a la mise en scène dans le livre, des livres, des bibliothèques, etc. Je voudrais qu'on puisse discuter un peu de ce rapport au texte antérieur. Pierre Sange l'a fait tout à l'heure déjà en parlant d'un des modèles pour Borges, mais il y a sans doute d'autres choses à dire aussi. Je prends un petit extrait de la réfutation donc de Pierre Sange qui montre un peu une pratique. À force de lire les ouvrages et piller les archives, autrement dit, ranimer des voix éteintes depuis si longtemps, chacun se rend compte que ce monde arbitrairement sorti de mer n'est pas une idée neuve, et ça continue. Cette idée de piller des ouvrages, de s'inspirer de ce qui a été écrit, quels ont été les modèles réels ou imaginaires? Évidemment, on peut parler de Borges, et ça a déjà été le cas. On pourrait aussi imaginer une écriture. Enfin, vous avez signalé Thomas Pynchon, il y aurait Nabokov. Quel est ce rapport, non seulement aux textes qui ont été écrits, mais alors à des mondes que vous avez imaginés vous-même?
Oui, juste un petit mot sur cette citation, comme c'est un texte est censé être écrit au XVIe siècle, c'est vraiment un lieu commun de dire, voilà, en lisant, on ranime des morts. Sinon, pour les modèles, bon, y a ceux qui sont évidents puis qui sautent à la figure, d'autres qui le sont peut-être moins. Un des livres ou un des auteurs qui m'ont autorisé à écrire de façon un peu décomplexé par rapport à parfois un respect qu'on a vis-à-vis de la littérature et voilà toujours la question de savoir à partir de quel moment on va s'y mettre, on va oser rajouter un livre au nombre de livres déjà écrits. C'est un Hongrois qui s'appelle Miklós Senkuti et qui a une écriture délibérément citationnel ou référentiel, mais par jeu, comme un pitre, comme un comédien de café-théâtre, comme un auteur de comédie musicale, voilà, pas du tout de façon livresque ou pédantesque ou universitaire, dans le sens parfois comme péjoratif qu'on pourrait lui donner sans...
Tout va bien. On dira pas de mal des écrivains non plus, promis.
Parce que c'était très bien ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que c'est pas un livre érudit et Miklós Senkuti qui pourrait essuyer comme d'autres l'accusation d'être extrêmement érudit parce qu'il met en scène son savoir qui est immense, sa bibliothèque est immense, ne l'est pas parce qu'il ne se sert de ses références. Que comme on utilise des personnages, comme on utilise des accessoires, comme on utilise des décors, des changements de décors, des changements de personnages. Voilà. Il peut faire référence à Sénèque, à Cicéron ou à Marilyn Monroe, mais Sénèque et Marilyn Monroe vont être utilisés comme Ovid utilise deux figures mythologiques pour écrire ses métamorphoses. C'est-à-dire, il les utilise comme des personnages déjà typés, avec leur lot de enfin, leur réputation, leur caractère, les idées préconçues qu'on peut avoir à leur sujet, les on-dit, les ragots et la mythologie, enfin, tout ça se mélange, fait que ce ne sont plus des références livresques ou érudites, mais ce sont des vraies créatures. Ça peut être la même chose avec des livres, avec des œuvres, avec des pays, avec des villes, avec des références culturelles très précises ou scientifiques ou mathématiques. Voilà. C'est ce jeu-là qui est censé ne pas être pédant, mais être amusant et saisir dans une sorte de convocation d'un peu tout ce qu'il y a à notre portée. Dans la table ronde précédente, on parlait de tous ces textes un petit peu d'injonction, ou ces textes dominatoires qui nous entourent et qui peuvent être appelés à l'intérieur d'un livre. Là, c'est un petit peu le même travail, sauf que ça va être les essais de montagne, par exemple. Il faudrait que ce soit fait avec la même tranquillité, la même absence de sérieux, mais encore là, une fois, c'est un travail sérieux, mais la même absence de gravité ou d'emphase ou de pathos.
Oui, je pense que ce que vous avez dit là est vraiment très important, et ce que j'ai ressenti à la lecture de votre livre, mais aussi à celle de Mathias Hénard, c'est que, en effet, le lecteur imaginé n'est pas le lecteur érudit, n'est pas le lecteur qui reconnaît telle allusion et par conséquent peut comprendre que l'auteur a voulu dire ça. Je crois qu'il y a vraiment une mise à plat du savoir et que ça ne s'adresse pas du tout, contrairement à ce que j'ai pu avoir l'impression qu'on a dit dans la réception, ça ne s'adresse pas du tout au lecteur érudit, à une petite coterie de gens qui se reconnaîtraient et qui s'auto-congratuleraient d'avoir reconnu telle allusion et telle allusion. C'est exactement le contraire. Enfin, il y a vraiment un...
C'est pas de la connivence entre lettrés. Voilà, c'est pas. C'est ça. Je c'est vous la dis ça, mais pas... vous comprenez très très bien ce que je veux dire avec des allusions que personne ne comprend. Donc, au contraire, c'est vraiment du premier degré et c'est une approche d'autodidacte, voilà, qui découvre des bibliothèques et qui découvre avec le même. Avec le même degré de naïveté, d'innocence ou de respect, Jules Verne et Sénèque. Enfin, voilà, c'est la même boulimie, la même naïveté, puis peut-être la même, d'une certaine façon, la même trivialité. On parlait un petit peu de, je crois que c'est Christian Prigent qui parlait un petit peu de ça, de cette idée de nécessité d'avoir recours à la trivialité. Je crois que c'est Michael Edwards quand il parle de la littérature anglo-saxonne. Fait un très bel éloge de ça, de ce recours poétique à la trivialité qui est aussi une façon d'éviter l'emphase et le lyrisme et puis cette gravité ou ce côté lugubre qu'il peut y avoir dans certaines écritures très référentielles.
Oui, je saute là-dessus parce que le mot est tombé tout à l'heure et votre commentaire va dans ce sens-là maintenant aussi. Dans Sort l'assassin, entre le spectre, il y a à deux moments un passage où vous marquez une hésitation. Je lis deux toutes petites phrases, mais vous verrez, ça rejoint ce que vous venez de dire, enfin, je crois. Cependant, les indices sont bien maigres, qui vous permettent de distinguer entre des souvenirs de tyrans et des souvenirs de pitres. Et tout à l'heure, dans votre explication, vous avez fait de nouveau référence à ce pitre, c'est apparu tout de suite. Et à la fin du même livre, vous dites « Il agace mon amour propre, j'hésite entre la tyrannie et la pitrerie. » Comment est-ce que vous situez comme écrivain, enfin,
entre la tyrannie et la pitrerie.
Entre la tyrannie.
C'est-à-dire que si une posture impossible ou difficile à tenir sans emphase, c'est la posture de l'opposant au tyran avec tous les sous-entendus et les postulats qu'il y a derrière, c'est-à-dire le postulat de la pureté, de l'honnêteté, de l'absence complète de désir de pouvoir, de la vertu, et puis voilà, on se met tout de suite dans la position de l'humilié et de l'offensé qui va dénoncer le roi nu. Puis bon, voilà, ça c'est une posture héroïque qui peut être intéressante, mais qui est rapidement pénible parce que il y a une telle vanité qui se cache derrière que la tyrannie pointe son nez. Donc c'est assumer peut-être sa tyrannie. Enfin, c'est un petit peu ce qui est mis en scène dans Sort l'assassin entre le spectre. Il faut que le pitre, enfin, c'est-à-dire l'artiste, le clown qui se moque des tyrans, accepte qu'il est lui aussi un homme de pouvoir. Seulement en acceptant ça, il pourra dire au tyran, à l'homme de pouvoir, qu'il est un homme de spectacle. Il voilà. faut que ce mélange soit là.
Merci. On revient à Mathias Sénard pour les questions de livres et de bibliothèques. Là encore, c'est souvent mis en scène, c'est thématisé, c'est allusif, mais c'est direct aussi. Hein. On pourrait trouver dans chacun des livres, dans Orénoc, dans Zone, des images de bibliothèques, d'emprunts, de commentaires de lecture, de dialogues à travers des livres, la recherche d'un livre de l'enfance aussi. Enfin, il y a ces choses-là. Est-ce que je me trompe en disant que le rapport n'est pas à la bibliothèque où tout serait juxtaposé à une construction, mais où il y a un rapport très personnel et parfois même physique au livre. C'est quelque chose qui m'a semblé... tel livre, tel lieu, le livre lié à un lieu, à une personne qui l'a eu, ces choses.
Oui, les livres sont parfois des éléments même, comme tu disais, des accessoires. Des personnages. Les écrivains aussi sont parfois des personnages en eux-mêmes. Et ce qui est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le livre, bah, voilà, c'est un élément qui fait partie de la vie et du monde contemporain. Et comme tel, bah, on le retrouve justement lié à des histoires personnelles, lié à des moments, lié à des émotions, lié à tout un tas d'épisodes et de moments de la vie. Et leurs auteurs aussi, c'est-à-dire que on peut, enfin moi c'est plutôt mon cas, plutôt que de faire justement dans un système assez référentiel de choses qui seraient à deviner, c'est au contraire moi qui invente hein, des personnages qui effectivement que je vais utiliser comme tels, mais qui vont s'appeler effectivement James Joyce ou Malcolm Lowry ou William Burroughs. Et c'est leur existence, leur corps à eux, en quelque sorte, que je vais utiliser dans mes livres, peut-être plus que leur œuvre, d'ailleurs. Et les œuvres que j'utilise par ailleurs, c'est surtout celles qui me permettent à moi, qui m'ont permis justement d'obtenir la liberté, j'allais dire, d'apprendre la liberté de l'écriture et de la composition et du roman. Et... quelqu'un qui pour moi a été extraordinairement important en cela pour Zone, c'est Roberto Bolaño, le Chilien émigré au Mexique et ensuite en Espagne, qui est mort à côté de Barcelone en 2003. Je pense que si j'avais pas lu Les Détectives Sauvages et que j'avais pas compris que c'était possible, si j'avais pas vu qu'on... c'était possible d'écrire ça. C'était non seulement possible d'écrire ça, mais possible que ce soit absolument passionnant, qu'on n'arrive pas à le lâcher, alors que c'est justement des dizaines de fragments absolument improbables dans le monde entier d'une quête à moitié absurde. Si je n'avais pas lu les Détectives Sauvages, je pense que jamais j'aurais trouvé la liberté et la force d'écrire Zone, par exemple.
Il y a quelque chose qui moi, enfin, m'a frappé à la lecture de Zone, et c'est une des choses qui a fait que j'ai beaucoup aimé ce livre-là, c'est que... On a l'impression que vous vous êtes laissé inspirer, ou vous vous êtes nourri en tout cas, d'une littérature qui n'est pas nécessairement la littérature, disons, classique d'une tradition française. Il n'y a pas que les références obligées. On voit un foisonnement. Et, enfin, il y a une véritable ouverture sur une littérature de l'ailleurs aussi. Enfin, ça peut être Bolaño, ça peut être... Enfin, il y en a différents. Dans quelle mesure est-ce que ça a compté dans votre parcours personnel c'est très peu français de ce point de vue-là. Mais c'est réducteur de le dire. Mais...
Je ne sais pas si c'est français ou pas, mais moi, dans mon parcours personnel, effectivement, j'ai fait des études d'arabe et de persan, donc j'ai lu beaucoup de littérature arabe et persane. Je me suis ensuite installé en Espagne, donc j'ai lu par ailleurs beaucoup de littérature et de romans écrits en espagnol, qu'ils soient espagnols d'Espagne ou d'Amérique du Sud. Et effectivement, sans doute, ma culture est atypique parce qu'elle correspond à un parcours, mais ça ne m'empêche pas de m'appuyer sur Homère et d'être grand lecteur de littérature française contemporaine. Et finalement, ces images qu'on a, on dit oui, ça c'est peu français, ça c'est très français. Ça, c'est... Ben, vous voyez la preuve, je suis très français et je suis nourri de un peu effectivement d'ailleurs. Donc comme quoi finalement la diversité, même au sein de la littérature française, il suffit de la voir pour... pour la trouver. On pourrait dire aussi que Pierre Sang, finalement, c'est assez peu français, cette, d'écrire un livre du XVIe siècle. Enfin, on peut toujours trouver une façon de voir...
Mais déjà, dans l'univers référentiel...
Oui, oui, oui.
On est loin...
Je suppose... Je vous dis, c'était pas mon... On réfléchit pas, on pense pas à cela quand on écrit. On dit pas, tiens, je vais essayer de pas faire français. Là. Je vais faire un livre qui est plus au face et une tonalité, je sais pas, orientale ou pas très français. Ce qui est sûr, c'est que maintenant que j'y pense, les personnages d'écrivains, mais ça c'est pour des raisons assez géographiques, qui sont dans le livre, dans Zone, ne sont pas français. Ça c'est juste. Mais aussi, on y discute quand même des grands textes majeurs de la littérature du XXe siècle. Par hasard, on parle de Proust et de Céline. Donc, il y a quand même quelque chose d'inévitablement très français là-dedans, puisque je le suis moi-même. Et la langue aussi conditionne un peu l'écriture en français, induit hein, forcément une relation avec une littérature française. Alors, peut-être c'est une littérature française qui, de par le propos, déjà... s'éloigne de la France. C'est un roman qui se passe majoritairement hors de France, pour le dire comme ça, mais qui s'inscrit quand même dans le corpus de la littérature française.
Tout à fait. Et ce qui est admirable dans ce livre-là, c'est cette nouvelle forme que vous avez réussi à donner pour raconter cette histoire-là. Je pense que c'est la manière dont on fait voir le monde qui est vraiment prodigieuse dans Zone, enfin, que j'ai en tout cas moi beaucoup aimé. Question toute ponctuelle, mais elle est vraiment très très ponctuelle. Vous avez lu Le peintre de bataille de Arturo Pérez Reverte ou pas du tout ?
Je l'ai parcouru. Il se trouve que Le peintre de bataille, il a pas très très bonne réputation en Espagne. C'est plutôt un auteur
la tristesse, c'est autre chose.
De littérature très populaire, ce que moi j'aime bien par ailleurs, mais la littérature populaire. J'ai lu ses romans sur la tristesse justement, mais je n'ai pas lu Le peintre de bataille. J'ai juste parcouru, mais le projet, je sais.
Ah oui, parce que le projet, à certains moments, je trouvais qu'il y avait des rapports, qu'on pouvait faire un rapport avec cet extraordinaire, ce bonhomme seul. J'y ai pensé, mais c'était tout à fait ponctuel et j'étais curieux de voir ce qu'il en était. Je propose de passer à une autre question qui rejoint un peu notre débat de tout à l'heure, mais je vais pas l'appeler l'ironie, parce qu'enfin, on en a déjà beaucoup parlé, mais je voudrais peut-être parler de questions de distanciation, de questions de jeu, de questions de structuration par là, chez Pierre Sang, d'abord. Enfin, si on parlait d'ironie, si on parlait de distanciation et de ludique, je ne vais pas lire un extrait, on est chez vous très fort dans une distanciation ou une ironie structurante. C'est-à-dire qu'on a des jeux d'opposition, il y a des rappels de l'identique, il y a des rappels avec des variantes, il y a des progressions comme ça en similitude et contraste, en particulier donc dans les fragments de Lichtenberg. Comment est-ce que, très concrètement, ça a pris forme à partir de fragments? Mais alors, comment est-ce que le livre de fragments, qui imagine que le livre n'était pas un fragment, comment est-ce que vous avez imaginé ça, ces jeux-là?
Je ne savais pas que je faisais de l'ironie structurante.
Voilà, c'est l'avantage d'avoir de temps en temps une universitaire en face de soi. Ça permet de les choses en forme. On est trop intuitif quand on est auteur, j'en suis certain.
Structurer un peu.
Oui, voilà, c'est ça, c'est important.
Concrètement, à partir du moment où j'ai attrapé le sujet qui est une sorte de vieux fantasme, en fait. C'est un rapport assez double que j'ai aux aphorismes, n'importe quel aphorisme. Je suis à la fois admiratif et puis je trouve que l'aphorisme est un genre extrêmement délicat, un petit peu comme l'ironie d'ailleurs, qui peut basculer dans le cynisme, comme on l'a dit tout à l'heure, ou le lyrisme qui peut basculer dans le kitsch. L'aphorisme, c'est une forme admirable dans le sens où ça ne s'impose pas, justement, c'est pas comme le gros roman œuvre à la Victor Hugo, hein, voilà un Français qui faisait La Légende des siècles et puis qui était énorme, ou Océan. Et, voilà. Donc l'aphorisme a cet avantage d'être de se vouloir discret, petit, vite lu, surtout dans une époque où on est un peu sollicité par des tas de choses. C'est une forme qui peut être agréable. C'est une forme qui joue sur le non-dit, sur le sous-entendu, sur sur l'ellipse, donc qui n'accare pas, qui est censé ne pas être trop pédagogique. Dieu sait si, par exemple, Lichtenberg joue très bien là-dessus. Mais le danger, c'est de tomber dans l'emphase, dans le bon mot, dans l'épitaphe presque, dans le lugubre, dans la phrase gravée dans le marbre. Et là, on connaît aussi beaucoup d'exemples d'auteurs qui, là, en faisant très court, font aussi quelque chose de marmoré, hein, quoi, je veux dire, voilà, un peu de sculpture funèbre. Et quand j'ai affaire à un aphorisme qui est à la limite de ça, de la qualité des défauts, j'ai toujours le sentiment d'avoir affaire à une forme de paresse de l'auteur. Si cette phrase-là, ou cette idée-là, ou cette tournure-là, il avait pris la peine de la mettre dans un texte, elle perdrait ce caractère assertorique ou ce côté bon mot gravé dans le marbre pour se couler dans une prose beaucoup plus triviale, beaucoup plus narrative, à l'air de rien. Et là, elle trouverait sa vraie place, c'est-à-dire qu'elle aurait de la valeur sans dire « attention, je veux dire quelque chose de magnifique ». À partir de cette idée, j'ai imaginé une théorie selon laquelle des aphorismes ne sont pas des aphorismes, mais des fragments d'un roman beaucoup plus gros. Alors, qui dit aphoriste dit Lichtenberg. J'aurais pu choisir n'importe qui d'autre. Mais,
Pascal.
Oui, Pascal, ou je ne sais pas. Mais bon, Lichtenberg, c'était très très bien parce que souvent, ces aphorismes ont effectivement cette forme-là d'extraits de romans qui n'existent pas. Voilà, parfois, ce ne sont pas vraiment des aphorismes, ce sont des descriptions, une métaphore pour décrire une figure, pour décrire un corps, pour décrire un nez. Voilà. Et on a parfois l'impression d'avoir affaire effectivement à des notes d'un auteur qui dit, voilà, la prochaine fois que je vais décrire un personnage, je vais dire qu'il avait le nez comme ceci, puis là, ça va être formidable. Et Lichtenberg, l'autre avantage, c'est que le personnage lui-même, c'est l'idéal pour écrire un livre, c'est-à-dire qu'il est à la fois très romanesque, de par son physique, sa biographie, son caractère, et puis aussi de par le manque de renseignements qu'on a sur sa vie. Donc voilà, on se permet un peu tout, voilà, comme Mathias Sénard fait ce qu'il veut il prend un personnage réel et en fait un personnage imaginaire. Voilà, on peut faire pareil avec Lichtenberg, d'autant plus qu'on ne sait finalement pas grand-chose, ou en tout cas ce qu'on sait fait de lui un personnage de Grimm, ou un personnage, un cousin de Münchhausen. Alors, à partir du moment où j'ai ce thème-là, j'accumule beaucoup de matière, beaucoup. Et ensuite, je fais un montage. Voilà. Donc l'aspect un peu découpé, visiblement découpé et visiblement structuré avec des notes marginales, des chapitres, avec des retours, des répétitions, voilà, une construction, c'est ça. C'est cette immense matière qui pourrait être uniforme et d'un seul bloc, sans retour à la ligne ou sans quoi que ce soit, mais qui est montée peut-être à la façon d'une façon cinématographique, avec le soin de ne pas faire durer trop de scènes, le soin de ne pas éloigner les épisodes, trop les éloigner les épisodes les uns des autres pour que l'oubli ne s'installe pas entre les deux. Voilà, voilà, c'est cette matière-là. Puis en plus, après, il y a un montage, donc le plan arrive peut-être après, d'une certaine façon. J'écris d'abord, je fais le plan après.
Oui, merci. Pour revenir à cette question de distanciation et d'ironie en passant, j'ai été frappé chez Mathias Sénard par la fréquence de notation dans Remonter le Rénoch de ironie du sort. Et en général, d'ailleurs, enfin, il faut savoir qu'on discute de deux choses différentes. Tout à l'heure aussi, quand on discutait d'ironie, on parlait d'une part d'ironie verbale, d'autre part d'ironie du sort. Et en fait, l'ironie du sort ne s'appelle l'ironie du sort que depuis, en gros, les guerres napoléoniennes. Avant ça, on ne parlait pas, ça ne s'appelait pas ironie. Et je crois que c'est peut-être pas un hasard que dans votre œuvre, où la violence, et on en parlera tout à l'heure, est très présente, cette ironie-là, qui de fort contraste, soit présente. Mais ça n'empêche que vous avez aussi une écriture qui est très ironique à certains moments. Enfin, dans Remonter le Rénoch, il y a un passage où il y a un directeur d'hôpital qui imagine l'hôpital idéal, l'hospitalisation du futur. Et quel est le rêve de ce directeur ? C'est le même que celui des universitaires qui aimeraient bien avoir des universités sans étudiants. Lui aimerait bien avoir un hôpital sans malades. Enfin, ce sont des choses qui sont très très bien dites. Il y a des très belles pages là-dessus. Dans Zoo, zone, il y a aussi ce passage, par exemple, mais je pourrais en citer différents, où l'importance des témoignages, je lis peut-être celui-là, il s'agit de témoignages d'horreur, de guerre, c'était magnifique. Autant de savoir, de sagesse, de connaissance au service de la justice, les observateurs internationaux prenaient alors tout leur sens. Ils témoignaient des horreurs de la boucherie avec un réel professionnalisme. Les débats étaient courtois. Pour un peu, je me serais proposé comme témoin. Mais ni l'accusation ni la défense n'avaient intérêt à me faire comparaître, etc. Comment est-ce que... Parce qu'en même temps, vous êtes dans l'écriture de cette espèce d'épopée, enfin, le terme est certainement là encore, ne dit pas tout et cache peut-être trop, mais en même temps, vous avez ces pages-là et elles ne sont pas exceptionnelles. Enfin, ce n'est pas du tout un livre noir, malgré ce que ça raconte. Comment est-ce que fonctionne cet équilibre-là, enfin, noir?
L'humour est quelque chose d'important justement pour cette espèce de variation de ton, que ce ne soit pas toujours le même potage, et pour faire aussi changer un peu les réactions du lecteur face à ce qu'il lit et ce que je lui fais voir. Et c'est vrai que dans le cas précis du tribunal pénal international de La Haye, c'est quelque chose qu'on peut voir d'une façon tout à fait ironique, qui peut même devenir extraordinairement comique. Déjà, la forme juridique et la forme des débats a toujours quelque chose de justement de tout à fait emphatique, avec énormément de termes très précis et des problèmes. Et surtout qu'à La Haye, je vous engage à aller voir, tout est sur Internet, on peut tout lire. Absolument tous les comptes rendus des débats qui ne sont pas à huis clos, on se rend compte que s'ajoutent des problèmes évidemment de traduction, d'interprète, de toute une espèce de montage extraordinaire, où finalement le discours, la place du discours des hommes et la place des victimes est complètement transformée dans un grand théâtre, où justement parfois tout devient très ironique, puisqu'on arrive, voilà, un expert des Nations Unies qui était en Bosnie commente avec des termes militaires très précis. Alors, voilà, le cratère était de telle forme, donc l'obus viendrait probablement de ce côté-ci. Enfin, c'est ce qu'on a établi sur le moment. Et puis, et tout ça, si vous le prenez un peu de loin, justement, si vous écoutez justement les mots plus que la réalité des choses, qui elles sont absolument terribles, c'est-à-dire qu'on sait en plus que l'obus en question a fait des morts. Mais si on écoute et qu'on voit la langue, plus que cette terrible réalité, ben, ça prête tout simplement à rire. Et le personnage, en fait, dans Zone, lui-même, le narrateur qui raconte donc cette histoire, bascule toujours de l'un à l'autre. C'est-à-dire, parfois, il est tellement pris dans ce qu'il raconte qu'il n'a pas la distance que donne le langage pour pouvoir rire. Et par moments, il l'a, et donc il a cette ironie, oui, sur les événements auxquels il a pris part.
Oui, ironie dont participait déjà le bréviaire de manière, alors là, beaucoup plus.
Alors, le bréviaire des artificiers est effectivement un texte qui déplace aussi un objet, c'est-à-dire qui imagine un traité, un peu à la façon de quelque chose du XVIIIe siècle, peut-être un peu voltairien, mais en même temps illustré à la façon d'Emmanuel de choses du 19e, sur le terrorisme, quelque chose de très contemporain, un dialogue entre un maître et son disciple. Et le maître va former le disciple au terrorisme, avec des commandements, Alors bien évidemment, ça peut se faire dans ce style-là, que justement de façon ironique, c'est-à-dire où c'est ce qui importe, là, t'es pas tellement la réalité des attentats, mais bien sûr, bien plus de se moquer du langage qui va autour.
Merci. Je prendrai un dernier thème, parce que si on veut encore donner la parole à la salle et si je dois tenir compte de l'heure qui avance, ça sera sans doute le dernier qu'on peut aborder. J'ai commencé en vous présentant, en vous disant, et je pense que c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de votre œuvre, que vous êtes tous les deux, à votre manière, des créateurs d'univers. Mais en même temps, j'ai été frappé, et dans une mesure diverse, hein, c'est beaucoup plus clair chez Mathias Sénard aussi, par le fait que vous imaginez aussi que cette construction, mais aussi que le monde, celui auquel on fait ou on ne fait pas référence dans la littérature, peut prendre fin. Il y a chez chacun de vous des réflexions sur... une apocalypse, quelle qu'elle soit, qui, parfois avec des liens alors, sur la possibilité de, d'écrire. Je suis quand même très, très étonné. Enfin, nous appartenons à peu près à la même génération. Nous sommes une génération qui n'a pas connu ici l'expérience de la violence directe. Mais il y a quand même cette question de violence qui est thématisée. Alors, différemment, bien sûr, Pierre Sange, avec cette image du jardinier de l'Apocalypse dans les ruines, où ça reste assez distant, où en fait, vous êtes en train de créer un monde alors même que votre personnage le détruit. Hein, je trouve que c'est une très très belle construction, ou alors sur le mode alors beaucoup plus allusif, une réflexion que j'ai trouvée dans les fragments et qui montre qu'on peut lire ces fragments de Pierre Sange comme on lit ceux de Lichtenberg. Je vous cite ceci. La fin du monde est une superstition de petites gens, minuscules lépreux qui vont consulter des prophètes de foire. La fin d'une époque, elle, est une supposition réservée à l'élite. Et vous commentez ça. Sur cette question de création du monde, fin du monde, violence qui est celle de notre société aujourd'hui, mais que nous n'avons pas vécue directement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire?
Alors juste un petit mot sur la distinction qu'il y a une blague entre la fin du monde et la fin d'une époque. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des livres, il n'y a pas très longtemps, c'est assez régulier, où des gens très très doctes nous expliquent que nous annoncent la fin de quelque chose. Ça peut être la fin des années 60 ou la fin des années yéyé ou la fin de, je sais pas, du livre ou la fin du cinéma, voilà. Et ce qui est toujours pathétique dans ces fins-là, c'est qu'elles sont évidemment une projection de l'auteur lui-même qui ne décrit que sa propre vieillesse ou sa propre retraite, souvent. Mais ça marche, parce que ces gens-là ont tellement du pouvoir médiatique ou un talent de séducteur, ou voilà, qu'on arrive effectivement à croire que leur propre sénescence ou leur propre sénilité, c'est la sénilité du monde, et qu'effectivement, bon, bah, c'est foutu, quoi. C'est voilà. Effectivement, une autre génération, une génération qui est passée par 68, est assez férue de ça. Mais maintenant, pour ce qui est de la fin du monde, donc c'est quand même un thème qui revient, puis en ce moment qui est assez présent, qui hante et qui peut hanter les discours. C'est intéressant d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue d'écriture, parce que quand un monde disparaît, il ne reste plus que la description du monde. Voilà. Dans un peu tous les cas, c'était de toute façon complètement inconsciente, mais j'y pense maintenant, que ce soit Ruine de Rome, où là, il y a eu une apocalypse qui est mise en scène par quelqu'un. La réfutation majeure où le narrateur veut nier l'existence de l'Amérique, donc d'une certaine façon faire disparaître le monde. Ou dans Fragment de Lichtenberg, où le thème de la disparition revient des fois de temps en temps, parce que je parle de livres brûlés, de livres qui disparaissent. Voilà, qu'est-ce qu'on peut sauver, qu'est-ce qu'on peut ne pas sauver. À chaque fois, la disparition est en fait fausse, parce qu'elle est remplacée par une création, comme si on ne pouvait pas faire autre chose que parler du monde, donc le faire vivre. Dans Ruine de Rome, cet apocalypse, ce ne sont que des mots d'apocalypse, et puis plus il le détruit, plus il décrit le monde. Pareil dans la réfutation majeure, pour nier l'existence d'un continent, il a fallu le décrire, donc finalement il ne fait qu'exister de plus en plus. Donc le narrateur est pris à son propre piège, il ne se rend pas compte qu'en parlant d'un monde pour le faire disparaître, il le fait exister, puis il a perdu. Voilà, donc c'est aussi peut-être une façon d'exorciser le fantasme de fin du monde, en disant que de toute façon, tant qu'on peut parler, on est encore vivant, quoi.
Que la langue est là pour le créer. Oui, chez Mathias Sénard, alors, ce n'est pas ce même jeu de renversement, mais c'est une œuvre qui, enfin, dans Zone, mais dans d'autres aussi, met très fort l'accent sur un certain nombre de violences guerrières. Mais je tiens à dire d'abord, et c'est ce qui fait la valeur du livre aussi, avec aucun voyeurisme. Enfin, un des problèmes de la représentation de la violence, c'est la question du voyeurisme ou de l'exhibitionnisme de la part de l'auteur. Ce n'est pas du tout ça qu'on trouve ici. Je trouve même que très très souvent, vous réussissez à miner ça, même s'il y a des images très très fortes. Alors, une des images très très fortes, je pourrais lire des longs passages sur des viols, enfin, je pense que c'est pas... Ils sont très très intéressants, vraiment, et d'un point de vue de l'écriture aussi, quand on sait ce qui a été écrit avant, je pense que c'est vraiment une forme neuve pour dire ce genre de choses-là, en dehors de tout voyeurisme. Mais j'ai pas tellement envie de vous lire ça. Simplement parce que là, c'est un peu plus esthétisant. Il y a cette image de l'assassin, enfin, qui s'attache le poignard à la main parce qu'il est trop fatigué. Il s'attache la main. Alors, évidemment, on pense tout de suite aux peintres qui se font attacher. Il y a un parallélisme qui est suggéré là. Enfin, c'est très efficace dans alors la petite image. Ou alors dans Zone, il y a cette femme, et là encore c'est très, très fréquent dans c'était comment la guerre, c'est quoi, ça fait quoi tuer quelqu'un, cette curiosité qu'on retrouve dans toute la littérature guerrière du XXe siècle, où vous l'expliquez, enfin votre personnage fait une démonstration très, très définitive, et qui en fait quelque part est aussi un refus de votre part de tomber là-dedans. Est-ce que vous pourriez commenter, d'une part, donc, enfin, pourquoi cet attrait pour la violence guerrière thématisée, pourquoi cette insistance là-dessus, et alors pourquoi ce choix de regard, parce que voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant.
La violence de guerre, c'est quelque chose que j'ai rencontré indirectement pour la première fois en 90, je crois, quand je suis allé au Liban faire un reportage sur la Croix-Rouge libanaise. Et donc c'était juste à la toute fin de la guerre du Liban. Et j'ai rencontré donc des secouristes. Mon premier contact avec la violence de guerre s'est fait par le récit, surtout, à part les choses, les épisodes auxquels j'ai pu assister moi-même, par le récit des secouristes de la Croix-Rouge qui racontaient leurs années de guerre et qui donc me faisaient part de ce que c'était l'expérience réelle de la guerre vue du côté du secouriste. Et puis quelques années plus tard, en retournant au Liban, je suis allé revoir ces gens-là et ces secouristes, et on a refait ensemble un tour du Liban, mais 4-5 ans plus tard, où le Liban était encore en train de se reconstruire, on n'était plus vraiment encore dans la guerre. Et j'ai retrouvé aussi certains des miliciens qu'on avait croisés, parce que tout ça était géographiquement très... C'est petit, donc si on retournait dans le même quartier, les miliciens, au lieu d'être à un carrefour avec une Kalachnikov, ils étaient au bar, en train de boire un café. Donc on en a retrouvé quelques-uns, et puis j'ai commencé à leur poser des questions aussi, tiens, voir qu'est-ce que c'était leur vision de la guerre à eux. Et ainsi, comme de fil en aiguille, je suis après allé en Iran. Et j'ai rencontré aussi des anciens combattants de la guerre de Iran-Irak. Et là, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que c'était pour la première fois, c'était des gens qui avaient mon âge, réellement. Les Libanais aussi, il y en avait qui avaient plus ou moins mon âge, mais qui étaient quand même un peu plus âgés que moi. Et là, vraiment, j'ai été en contact avec des étudiants qui avaient passé 3-4 ans sur le front, entre 16 et 18 ans, majorité, ou entre 15 et 19, comme volontaires. Beaucoup étaient mutilés, avaient vraiment souffert dans leur corps la violence de guerre. Et en échangeant avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'absolument indicible et indescriptible dans la violence de guerre, mais qui en même temps, finalement, était assez commun. C'est-à-dire que ce que je retrouvais, les récits que je retrouvais en Iran, ressemblaient à ceux que j'avais entendus au Liban, finalement. Et j'ai voulu aller plus loin, et... je me suis retrouvé, un peu par hasard, à interroger des anciens combattants yougoslaves, serbes et bosniaques principalement. Et je me rendais de plus en plus compte qu'il y avait quand même une communauté dans ce récit-là. Alors pourquoi est-ce que ça m'a intéressé? Après, je me suis demandé, puisque pour parler comme Bourdieu, il faut dire d'où on parle. Et je me suis demandé, moi, d'où j'allais parler et quelle était, moi, ma propre relation avec cette violence de guerre. Et je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, d'une part, les gens de ma génération, ce qu'on a vu, enfin les images dont moi je me souviens à la télévision, les premières, c'était des images justement de la guerre du Liban. Des images de la violence, de voir cette ville brûler et brûler sans cesse au fil des années, c'est quelque chose qui m'a très certainement marqué. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Ton grand-père a quand même été soldat, homme professionnel, lui, militaire de carrière, parachutiste, qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale et à tous les conflits coloniaux de la France. Donc, même s'il en avait assez peu parlé, la violence faite au corps du soldat, au corps du combattant, je l'avais vu et je l'avais même touché tout petit, puisque je me souviens, sur le corps de mon grand-père, il y avait beaucoup de cicatrices, notamment des grandes cicatrices dans la nuque, assez profondes. Et je me souviens, une fois, je lui avais demandé tout petit, mais qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu t'es fait? Il m'avait dit, corps à corps. Ce qui avait de quoi impressionner un enfant de mon âge, même s'il ne parlait pas du tout. C'est que petit à petit que j'ai pu reconstituer tout sa carrière et ce qu'il avait pu faire par ailleurs, mais à travers les photographies notamment. Mais il n'en parlait pas. Donc ce silence, peut-être, qui m'a intrigué et qui faisait partie de mon histoire personnelle à travers celle de mon père, et qui lui a été fils de soldat. Et c'est peut-être ça l'origine de mon intérêt, mais c'est surtout les rencontres. Voilà. Et après, je pense que la littérature, là, a vraiment un rôle à jouer dans la description de la violence de guerre. Et justement, pas du tout dans le côté de ce qu'on pourrait appeler, comme vous dites, du voyeurisme, ou qui serait essayer de transmettre l'expérience de la violence, qui, elle, est par définition intransmissible. C'est ce qu'on dit, c'est peut-être ces questions qui reviennent tout le temps. Qu'est-ce que ça fait de tuer quelqu'un? Ben, vous ne le saurez pas, de toute façon. Puisque même celui qui a tué, lui-même a du mal à transmettre cette expérience-là. Il ne sait même pas quoi en faire, lui-même. C'est quelque chose qu'il aimerait faire disparaître de lui, s'il pouvait, le plus souvent. Donc, la littérature, elle ne peut pas être tellement sur ce plan-là. Elle ne peut pas faire ressentir ou faire revivre la violence de guerre au lecteur. En revanche, elle peut justement essayer, et c'est plutôt ce qui m'intéresse, essayer de me placer du côté du récit des combattants. C'est-à-dire de montrer leur point de vue et leur souffrance à eux, en fait, à travers le récit de guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'eux, ils m'ont transmis, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à en dire? Qu'est-ce que moi, dans mon travail de littéraire, qui est justement travailler à partir de l'ensemble des témoignages et de ce que moi, je peux construire entre ces témoignages-là, qu'est-ce qu'on peut rendre comme image de ce que c'est que la souffrance ou le plaisir de la guerre?
Oui, où là, très clairement, ça va à contre-courant de toute une littérature qui regarde plutôt du côté de la victime que du côté de l'acteur. Là, il y a un choix. Vous avez fait plutôt le choix de regarder du côté du combattant, en soulignant qu'évidemment, celui qui, si on a une arme, c'est d'abord pour tuer et pas pour se défendre. Vous regardez de l'autre côté, alors qu'il y a toute une tendance de la littérature contemporaine aussi qui regarde très fort vers la victime.
Oui, mais ça ne veut pas dire que le récit des victimes soit pas valable aussi. Et d'ailleurs, beaucoup de ces combattants que j'ai interrogés sont aussi en quelque sorte des victimes, puisque c'est des gens qui ont été donc blessés, mutilés, ainsi de suite, ou qui ont des très graves, pour certains, séquelles psychologiques. Donc, le combattant, effectivement, bon, dans le cas des miliciens et des volontaires, c'est un autre problème, mais il y a aussi toute une partie de gens qui se retrouvent avec un fusil très jeune, avec un entraînement militaire qui leur dit faire des choses très précises, et qui vont se retrouver donc confrontés à l'extrême violence, celle qui provoque et celle qu'on essaye d'exercer sur eux, sans avoir pensé à rien ou à très peu de choses. Et c'est donc voilà, la pure expérience brute qu'ils essayent de retrouver après en disant, mais c'est quand on leur demande, et alors, est-ce que tu te souviens du premier coup de fusil que tu as tiré? Alors ils se disent, oui, bien sûr, oui, je m'en souviens très très bien. Je ne savais pas comment faire. Tu n'avais pas entraîné à... Si, bien sûr, mais ce n'est pas pareil. Justement, on sait tirer, mais on ne sait pas... On voit qu'on vous dit, alors tirez, alors on tire. Ou la première expérience de peur, quel moment où tu as eu très peur, et on dit, mais j'avais peur tout le temps. On dit, mais comment c'est possible d'avoir peur tout le temps? On dit, mais ça devient une espèce d'état qui s'installe. On a peur tout le temps. Après, il y a des moments où on sursaute. Alors là, ce n'est pas qu'on a peur, c'est qu'on sursaute, mais la peur devient un état... un état permanent. Donc toutes ces choses qui sont impossibles, enfin qui peuvent être imaginées, mais que moi j'avais pas les moyens d'imaginer, puisque justement j'avais pas de rapport réel avec la violence de guerre. Donc tout cela, ben voilà, j'ai essayé de le mettre en forme et de donner corps en fait, d'incarner, de donner chair à ce que c'est que voilà, dans ce que peut être en littérature l'expérience du combattant.
Merci à tous les deux pour vos réponses. La parole est à la salle. Nous avons mathématiquement encore le temps de parler brièvement parce que je pense que ça suscite sans doute des interrogations malgré l'heure avancée. Donc allez-y, je vous en prie.
Il me revient de dire qu'il y a vraiment très peu de temps pour les questions. Très très peu.
C'est une question pour Mathias Sénard. Comme on part d'ampleur narrative, etc., on n'a pas évoqué quelque chose qui doit un peu vous embêter maintenant, mais qui est cette phrase de plus de 500 pages.
Ça m'embête pas, je l'ai écrite.
Oui, enfin, on vous en parle souvent. Ouais. Or, il y a deux chapitres qui sont ponctués par des points. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi vous avez choisi de... En fait, est-ce que c'est par amusement ? Trois, oui, peut-être.
Il y a trois chapitres qui sont où il y a des points. Parce qu'en fait, le narrateur, donc ce personnage est dans le train... Et donc tout son trajet en train, bah, dans le train, il fait un peu comme tout le monde. Il regarde par la fenêtre, il regarde ses voisins, il réfléchit, il pense, il se lève, il va au bar, et à un moment, il se rassoit et il prend un livre. Il prend un livre, il commence à lire, et on va avoir l'intégralité de sa lecture. C'est-à-dire qu'il va lire trois fois, et on va avoir exactement le récit qu'il est en train de lire, tel qu'il est dans le livre qu'il est en train de lire, et donc, effectivement, il y a des points. Alors pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait d'abord parce que j'avais vraiment envie qu'il y ait cette histoire de combattantes palestiniennes, de montrer que dans la guerre, il y a aussi des expériences de combattants femmes, qui ne sont pas forcément les mêmes, ni pour les mêmes raisons que ceux des hommes. Mais je voulais le raconter d'une façon un peu différente, d'une part. Et de l'autre, bah, c'était bien de faire des pauses, justement, dans cette espèce de très long monologue, de ce narrateur, qu'on puisse avoir un peu, justement, voilà, passer un peu au dessert ou au poisson pour revenir ensuite à la viande. C'était un peu la question. Voilà, c'est pour cette raison-là.
Alors c'est rare, mais la deuxième sera la dernière, Dominique, si ça doit être toi. Oui. C'est sûr.
Oui, une question donc, que je pose à tous les deux à propos de ce qu'impose l'ampleur au lecteur, qui me semble être du côté, pour le coup, de la lenteur. C'est-à-dire il faut du temps pour lire ces livres-là. Et je voudrais savoir si cette lenteur a aussi un enjeu. Dans un monde qui est de plus en plus un monde du zapping, où on passe très vite sur les choses, où dans les journaux, même les papiers se réduisent de plus en plus, où le modèle du journal, ça devient un journal gratuit, 20 minutes, avec 4-5 lignes à chaque fois. Bon. Il me semble que... Bon, je sais pas, il y a beaucoup de penseurs qui réfléchissent à ça, Virilio, par exemple, sur cette espèce d'accélération extraordinaire. Des livres comme ça, ça impose de prendre du temps, de s'installer dans quelque chose, d'y rester, d'y demeurer... Et il y a presque quelque chose d'emblématique au début de Zone, puisque le personnage a raté l'avion, il prend le train. Enfin, donc on choisit quelque chose de plus lent, justement. Et est-ce que, d'une façon ou d'une autre, pour vous, ce choix de l'ampleur, c'est aussi le choix d'imposer un autre rythme à la lecture du monde, soit la lecture de la culture, soit la lecture de l'histoire, des événements, et donc un effort de rétention dans un monde auquel la vitesse impose, d'une certaine façon, l'oubli permanent ?
Il y a effectivement le côté 20 minutes, c'est un aspect du monde contemporain. Mais il y a aussi, et par exemple, il suffit de voir des choses qu'on ne pensait pas possibles, comme la revue 21, par exemple, le succès qui prouve l'inverse. En même temps, les lecteurs disent, oui, un gros livre, on va mettre du temps à le lire, mais ils sont contents, justement, que ce soit un gros livre. Parce qu'ils disent, oh, ben, comme ça, on s'habitue, puis on y reste plus longtemps. Ce que je trouve très bien, les gens aiment aussi le côté saga, on prend le temps justement, on s'habitue à des personnages qu'ensuite on est triste de quitter, on aime les choses qui prennent le temps justement. Alors peut-être parce que notre monde est de plus en plus rapide, on va faire des livres de plus en plus gros pour que les gens aient, aillent plus lentement. Enfin, ce serait une possibilité, voilà, une fête de résistance un peu à ça. T'en penses quoi, toi ?
Peut-être qu'écrire des bouquins comme ça, parce que c'est vrai qu'on se pose quand même la question de savoir si on n'impose pas des choses trop grosses qui dépassent la limite d'une vie humaine, comme disait Borges, il disait que les romans sont vraiment trop gros. Quand on le fait malgré tout, on suppose et on espère et puis on constate quand même que ce temps-là de lecture existe. Parce que ces livres-là trouvent leur place. Ça peut être d'autres livres, ça peut être le Pynchon qui vient de sortir ou la l'XIème lecture de classiques épais. Donc ce temps-là existe et ces livres-là veulent peut-être prouver d'une certaine façon qu'ils ne le créent pas ce temps, mais ils cherchent l'hospitalité dans ce temps-là. Et avec cette idée qu'en faisant ça, on célèbre une forme de luxe vraiment pas cher, un luxe à la portée de main, c'est-à-dire le luxe pour chacun de se donner du temps de lire ces livres-là ou d'autres. Je veux dire. Voilà. Alors, il y a le prix du livre lui-même, il peut faire 25 euros, mais il y a aussi un autre luxe qui est plus important, c'est le luxe, pendant la durée d'un livre, d'échapper à l'injonction, d'échapper au mot d'ordre, d'échapper au discours, d'échapper au slogan. Et ça, c'est un luxe magnifique parce que c'est un luxe qu'on n'a pas à acheter, qu'on n'a plus qu'à se donner. Donc voilà, c'est un pouvoir que peut-être qu'on se donne. Alors si ces livres-là, ils ne le créent pas, ils supposent qu'il existe, en tout cas.
Voilà, alors si il est l'heure, il est l'heure. Merci beaucoup.
Allons manger.